Chapitre 112. Restant absolument immobile dans la salle à manger, le regard tourné vers le hall, le chasseur de lapins sent une adrénaline glaçante se répandre dans son corps. Son pouls s'accélère. La fatigue s'empare de lui, déferlant comme un vent chaud. Et il réalise qu'il a oublié de prendre du modiodal aujourd'hui. Il n'en a pas forcément besoin. Mais une brusque crise de narcolepsie réduirait tout à néant. Il faut absolument qu'il veille à garder son calme. Comme derrière un mur, il entend Rex dire qu'il faut défaire la corde autour du cou de James. Il se retourne et croise son regard. Dès le début, il a déterminé qui mourrait en dernier. Rex se tiendra devant le champ de bataille dévasté, verra le vengeur fondre sur lui et tombera à genoux face à son destin. Le silence règne dans la salle à manger. Rex et Sammy battent en retraite. James souffre tellement qu'il est en train de perdre connaissance. Quand on frappe à la porte d'entrée une troisième fois, le chasseur de lapins sent un crépitement dans sa tête et il voit la porte de l'étable s'ouvrir en grand, poussé par le vent et la neige virevoltée au-dessus du sol. Sa maman pleure comme une petite fille terrorisée quand elle recule en tenant le couteau de boucher contre sa propre gorge. La tempête avait sévi toute la nuit, et elle avait eu de plus en plus peur, avait passé de longs moments les yeux fermés et les mains sur les oreilles. Puis elle était entrée dans une phase d'agressivité. Elle avait brandi des restes d'animaux abattus qu'elle avait jetés sur les murs, et elle avait menacé de l'étouffer quand il pleurait. Il sait qu'il doit empêcher ses souvenirs vifs et cuisants de contrôler son esprit pour ne pas devenir comme sa mère, pour ne pas laisser entrer la psychose. Enfant, il prenait part à sa maladie, sans pour autant être malade. Il n'avait tout simplement pas d'autre choix, et ça, ce n'est pas être psychotique. Il se le martèle. Pour elle, la réalité du viol occupait tous les instants. La peur des lapins était devenue phobique et la terreur avait conclu une alliance terrible avec la mémoire. On frappe encore à la porte. Des coups puissants. Le chasseur de lapins s'entend parler et donner des ordres, mais comme si ça se passait dans un monde lointain, dans un vieux film documentaire à l'image saccadée, un reportage tourné en zone de guerre. D'un coup de pied, il renverse la chaise sous le corps de James et le voit frétiller. Il ôte les oreilles de lapin, sort de la salle à manger en poussant Rex et Sammy devant lui et referme les portes. Puis il déplace le tapis pour dissimuler les taches de sang sur le sol. À la réception, DJ emmène Sammy derrière le comptoir pendant que Rex se dirige vers la porte d'entrée. La pluie fouette les vitres noires, ruisselle du toit et coule sur le verre. On devine une silhouette dehors, sous le déluge. DJ range les oreilles de lapin dans un tiroir parmi des stylos et des trombones. Il sort son pistolet, recule la culasse et cache l'arme derrière le comptoir. Rex déverrouille la porte et fait entrer un homme de grande taille qui tient un bidon d'essence à la main. La pluie s'engouffre dans le hall d'entrée avant que Rex ait le temps de refermer derrière lui. DJ observe le visage de l'inconnu et ses mouvements fatigués. Ses cheveux blonds sont plaqués sur sa tête mouillée. Ses vêtements sont trempés et ses chaussures et le bas de son pantalon sont maculés de boue. DJ n'entend pas ce qu'il dit à Rex, mais il voit l'homme poser le bidon d'essence et s'avancer vers le comptoir. L'hôtel est fermé, annonce DJ en croisant le regard de l'inconnu aux yeux gris. Étrangement clair. Je comprends, mais je suis tombé en panne d'essence en bas sur le 10 et j'ai vu de la lumière ici, explique l'homme avec un accent finlandais. DJ pose sa main gauche sur l'épaule de Sammy tout en tenant le pistolet dans l'autre, bien dissimulé par le comptoir. Il tire aussi bien avec les deux mains et peut passer de l'une à l'autre sans même réfléchir. Il a conscience que l'étranger peut très bien être un policier. C'est possible, mais peu vraisemblable. Il ne peut pas se permettre de laisser une méfiance irrationnelle guider les choix qu'il va faire au cours des prochaines minutes. Personne n'a pu les trouver ici en si peu de temps. Et un policier ne se mettrait pas seul à sa poursuite. Du regard, DJ scrute les vêtements mouillés qui collent à son bras et à son torse quand l'homme s'essuie les sourcils. Il est absolument certain qu'il ne porte pas de gilet pare-balles. Mais il peut avoir un pistolet sous son bras gauche ou fixé à la cheville. Le plus probable, c'est qu'il n'a aucune idée de la situation dans laquelle l'a propulsé sa panne d'essence. « On vous aurait volontiers aidé, mais vous tombez en pleine réunion privée, » dit DJ, et il fait passer l'arme dans l'autre main. « Il n'y a pas de personnel et tous les téléphones sont coupés. »